posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus, Yann Anthony Noguès.
Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Nous sommes en train de créer un démon. Si vous me demandez quelle est la principale menace existentielle de l'homme, eh bien, la voilà. C'est Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX, qui dit ça en parlant de l'intelligence artificielle, de la biotechnologie et de la robotique qui, oui, offre les plus grands avantages pour la société, mais qui réclame un cadre légal bien défini. C'est pour ça que l'Europe, le Parlement européen, s'y attelle, s'intéresse de très près à la question. Bonjour Maddy Delvaux.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputée socialiste luxembourgeoise. Pourquoi, en un mot dans l'introduction, est-ce important de s'atteler à cette question?
Il faut le faire maintenant parce que les robots, l'intelligence artificielle se développent très très vite et donc nous sommes dans le temps pour créer un cadre légal.
D'accord. Ils ont l'intelligence artificielle d'un Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards. Ils sont avec nous, Charles de Marcy de la Fondation Robert Schuman. Bonjour Charles. Jean-Sébastien Lefebvre de Context. Bonjour Jean-Sébastien. Et Emmanuel Foulon, conseiller politique belge auprès du Parti Socialiste. Bruxelles veut empêcher Terminator demander le programme de 500 millions d'Européens pour réagir à chaque 500 ME. Est-ce que c'est une question qu'il faut prendre au sérieux, Charles de Marcy?
Ah oui, c'est fascinant et en même temps c'est effrayant. Et on voit très bien qu'il y a...
On parle de Donald Trump, on parle de...
Non, justement, pour une fois, on est beaucoup moins sérieux. On parle en fait de notre avenir, de l'avenir de nos enfants et tout ce qui va être lié à la sécurité juridique. Et c'est pas le terme qui vient d'abord à l'esprit, mais c'est une vraie question de sécurité juridique. Si tout va bien, si on protège nos ingénieurs, si tout va mal, s'il y a un accident, comment est-ce que ça se passe? Et donc, il faut être capable, en fait, de pouvoir gérer. Et là, on voit très clairement qu'il y a une valeur ajoutée de la part de l'Union européenne, parce qu'au monde, il y a quasiment personne qui légifère dessus. Les États sont encore assez timides. Et là, on peut avoir pour le coup cette volonté de pouvoir pousser, d'avancer, de progresser et d'être ambitieux sur quelque chose qui, à mon avis, nous touche tous.
Maddy Delvaux, après on va revenir sur les questions d'emploi que ça pose avec l'automatisation, la déshumanisation peut-être d'une partie de l'économie. On va voir, hein, les chiffres diffèrent. Il y a Oxford qui considère que d'ici 10 à 20 ans, la moitié des emplois pourraient être automatisés, alors que l'OCDE dit non, à peine 9%, etc. Enfin bref, on regardera un petit peu de plus près la boule de cristal tout à l'heure. D'abord, une question. Vous êtes le législateur là-dessus. Vous réfléchissez à cette question. C'est quoi un robot? La définition d'un robot, c'est quoi?
Ça commence par... c'est la première difficulté. Donc, c'est...
Bon, d'accord.
c'est une machine.
Oui, bon, OK.
Elle a un support physique grand ou petit.
D'accord.
Équipé de capteurs, connecté à un réseau, programmé, mais qui peut aussi apprendre par elle-même. Et donc, la première chose, c'est de bien voir que c'est de l'intelligence artificielle ou comme on veut l'appeler, mais combinée à une machine. Ce n'est pas seulement un programme algorithmique. Mmh. Donc, et de là, donc toutes ces questions aussi de responsabilité, parce que c'est une machine qui agit.
Et après, il y a différents types de robots. Il y a les robots industriels.
Il y a les robots industriels. Les voitures sans chauffeur. Il y a les drones. Il y a les voitures, les robots chirurgicaux. Il y a les robots de soins. Des robots, même on appelle même un robot, un aspirateur robot qui va tout seul. Donc il y a une énorme variété.
Ce sont ces robots-là qui doivent faire l'objet d'un cadre législatif pour les années à venir.
Oui.
Il en existe déjà dans le monde ou pas? Ou là, les Européens, on serait les premiers à y réfléchir?
Non, mais il existe.
Les Japonaises qu'ils ont?
Il existe des robots qui sont souvent dans des situations bien protégées. Hein, mais il n'y a pas en ce moment de législation au monde sur les robots en général.
Parce que
je pense d'ailleurs aussi qu'il faut regarder application par application. Une voiture est autre chose qu'un aspirateur. Hein, donc il faut vraiment trouver la bonne mesure. Mais il y a des principes qui doivent être pour tous. Et donc les grandes questions, c'est aussi une des grandes questions, c'est la protection de la vie privée. Là, parce qu'un robot fonctionne avec énormément de données.
Parmi les questions qui se posent, comment on indemnise les victimes de voitures autonomes, comment prévient-on le risque que un robot devienne plus intelligent que les humains.
Ça fait partie des questions qui se posent. Dédramatiser un peu ce débat.
Delvaux, on fait de la télévision, il faut dramatiser, on fait de la radio. Emmanuel Foulon.
Et puis surtout, pour dramatiser, vous êtes bien tombé. Mais ceci dit, effectivement, il y a un vrai clivage. Ce qui est interpellant, c'est que ça appelle à un vrai changement de société et du coup un vrai changement de mentalité. Et c'est pour ça qu'autant de personnes se braquent, parce que de nature, on est tous réfractaires au changement. Alors, l'arrivée des robots, c'est bien. On est tous fans de la technologie. Tout le monde a un téléphone portable. Tout le monde est intéressé. C'était la télévision. C'était tout ce qui est possible au niveau technologique. Seulement, effectivement, il y a des conséquences. Il y a des conséquences, par exemple, sur l'emploi. Tout à l'heure, vous citiez le chiffre de un emploi sur deux qui serait automatisé bientôt. C'est peut-être vrai, mais ça sous-entend aussi qu'il va falloir, un, peut-être changer la durée du travail, deux, que la nature du travail va changer. Il y aura sûrement d'autres travails connexes à faire autour de la robotique, autour de la technologie. Donc, c'est une vraie remise en question de la société, et c'est pour ça qu'il y a une telle levée de bouclier. Mais juste laisser le bouclier lever et dire « ce n'est pas bien, ce n'est pas la solution, parce que vous pouvez faire ce que vous voulez, la technologie va continuer à évoluer. » Alors soit vous la prenez à bras-le-corps et maintenant vous étudiez les possibilités pour l'avenir, soit vous ne faites rien et vous vous retrouverez dans 10 ou 15 ans avec un vrai clash social et un vrai chaos.
Pourquoi il y a vraiment, avant de donner la parole à Jean-Sébastien Lefebvre, Mani Delvaux, il y a vraiment un débat là-dessus. Il y en a qui disent non, faut pas bouger, faut pas avancer.
Moi, je rencontre, enfin, la plupart des gens qui s'intéressent au sujet, ils sont soit tout à fait enthousiastes et ils nous promettent que les robots et l'intelligence artificielle va résoudre tous nos problèmes, et les autres qui disent mais ça va être horrible, c'est l'enfer, on n'en veut pas.
Non, il y a les socialistes chapeau, parce que les socialistes considèrent même qu'il faut taxer les robots et que c'est ça qui va permettre de payer notre revenu universel. Mais on va y revenir. Jean-Sébastien Lefebvre.
Là, qu'est-ce qu'il est provocateur.
Oui, il est très provocateur.
Ce qu'il faut voir aussi, c'est une bonne chose que l'Union européenne, comme là on est juste à un stade de rapport, mais commence à y réfléchir, parce qu'il va se poser la question des standards mondiaux sur les robots. Ça veut dire que si chaque pays commence à dire moi je vais ça comme standard par rapport aux robots, je mets ça comme législation, et qu'au niveau mondial après on commence à discuter pour avoir un peu des standards, comme pour les téléphones ou les choses comme ça, c'est quand même mieux qu'on arrive à 28, bon 27 d'ici là, pour dire bon bah voilà ça va être ça, nous on représente 30% du PIB et on pense que c'est ça la solution, que si chacun arrive en orbe dispersée. Donc c'est bien de prendre le problème en amont.
Bon, alors, les questions qui se posent, Mani Delvaux, quand on veut légiférer sur les robots. D'abord, on se pose la question, qu'est-ce qu'un robot ?
Ça,
vous avez à peu près donné la définition tout à l'heure.
Oui, mais bon, ça peut être affiné.
C'est quoi la question suivante ?
Le problème
de responsabilité ?
La responsabilité, c'est sans doute la question la plus urgente, puisque les voitures sans chauffeur, elles seront sur nos routes dans quelques années. Elles sont déjà...
Mais elles auront quand même un propriétaire, les voitures sans
chauffeur. Oui, mais si vous roulez dans une voiture sans chauffeur et vous ne roulez pas vous-même, vous êtes dans une voiture sans chauffeur et la voiture fait un accident, c'est pas votre faute.
Donc les assureurs s'intéressent de près à ces questions-là.
Les assurances sont en train de se... Il y a des discussions entre producteurs d'auto et les assurances. Et donc,
pour l'instant, il n'y a rien.
Pour le moment, la question n'est pas réglée. Pour le moment, bon, de toute façon, pour le moment, ce n'est pas autorisé de rouler sans un chauffeur qui a les mains sur le volant. Donc, sauf en projet pilote.
D'accord. Quels sont les autres éléments de responsabilité impliqués ?
C'est surtout pour tous les gros robots. Donc la question se pose. Moi, je pense que c'est le producteur qui doit prendre la responsabilité. Bon, alors il y a des questions d'assurance, puisque les assurances normalement fonctionnent sur des statistiques. Or, nous n'avons pas de statistiques. Et l'industrie automobile nous promet qu'il n'y aura plus d'accidents avec les voitures sans chauffeur, mais bon, il y en aura.
Projet pilote n'a jamais aussi bien porté son nom, finalement.
Oui. Sur le médical ?
Vous êtes gentil de rire, Jean-Sébastien Lefebvre.
Mais après, il y a même aussi des réflexions éthiques. On a eu plusieurs articles sur le sujet. C'est, par exemple, si une voiture sans chauffeur doit faire une manœuvre pour éviter quelqu'un, mais que du coup, ça l'oblige à finalement percuter quelqu'un d'autre, est-ce qu'elle le fait ou est-ce qu'elle choisit ? Comment elle choisit entre les deux ? Un être humain, en gros, ça va être l'instinct, on ne va pas forcément réfléchir et on en subira les conséquences juridiques. Là, comment on fait ? Est-ce que du coup, le responsable de l'accident, c'est le propriétaire de la voiture, celui qui l'a construit, ou celui qui a programmé le logiciel, qui prend la décision ? Donc en gros, c'est le développeur informatique, quelqu'un qui est dans un bureau, qui fait des mathématiques et des logarithmes, qui est responsable d'un accident qui se produira peut-être 10 ans après, je sais pas. Donc c'est juridiquement, c'est, moi, je trouve que c'est intellectuellement, c'est un casse-tête très intéressant. Mais concrètement, ça aura de vraies conséquences dans nos vies quotidiennes.
Charles, c'est la différence entre la machine et le robot. Le robot, il a son programme, il va tout droit, et la machine, elle doit interagir avec son environnement et prendre en considération ces différents éléments qui font qu'elle va gagner en fait cette autonomie. Et donc oui, sur la sécurité juridique, qui fait quoi, qui s'appartient, c'est extrêmement complexe, d'où l'intérêt de légiférer, au moins de mettre des lignes rouges et des principes, et d'être prescripteur de nos préférences collectives. Parce que si au niveau européen, on est capable de le faire pour un marché encore aujourd'hui de 500 millions de consommateurs, on sera capable au niveau mondial de pouvoir prescrire ces différentes préférences collectives. Et là, je crois que c'est fondamental.
Alors, le Parlement européen plaide apparemment, entre autres, pour un code éthique volontaire, où il serait par exemple stipulé que tous les robots soient équipés d'un bouton kill. Expliquez-moi ça.
Nous, on ne l'appelle pas un bouton kill.
Quand vous dites nous, ce sont les socialistes ou ce sont les parlements européens, ce sont les luxembourgeois, c'est le rapport.
Les parlementaires, les
d'accord,
luxembourgeois,
moi j'ai vu
les
parlement
socialistes,
plaide pour.
J'englobe tout le monde.
D'accord.
Là. Mais si, enfin, ça me semble quand même normal. Si vous avez une machine, vous pouvez appuyer pour qu'elle démarre et vous appuyez pour qu'elle s'arrête. Le robot étant une machine très sophistiquée, il faut qu'il y ait un moyen de l'arrêter.
Parce que c'est marqué en gros, soit équipé d'un bouton kill permettant de les désactiver en cas de nécessité.
Mais vous l'avez sorti de la presse, vous ne l'avez pas sorti du rapport. Voilà.
Non, c'est vrai, effectivement, j'ai sorti de la presse.
Voilà.
Bon, fameux
sources.
Encore un stagiaire au chômage. Très bien. Bon, et donc, il ne faut pas croire à la presse alors.
J'ai l'expérience de tous les pays.
Vous allez utiliser ces armes des populistes qui se retournent systématiquement les journalistes
et qui ne lisent pas les rapports.
Et je vois que l'attention est souvent très individuelle, donc ça varie beaucoup d'un média à l'autre et d'un pays à l'autre aussi.
D'accord. Dans quel pays on est le plus en pointe sur ces questions-là?
Je dirais que la France est très intéressée, l'Italie, l'Angleterre, et puis les pays, la Pologne, par exemple. Ce qui m'a
beaucoup ça, c'est en Europe. J'imagine que le Japon doit avoir une réflexion déjà sur la question.
Vous voulez parler de la robotique? Le Japon, mais la Chine, les États-Unis sont en train d'investir massivement dans la recherche sur l'intelligence artificielle, la Corée. Mais l'Europe est bien placée encore.
Donc, pour rebondir sur ce que disait Emmanuel Foulon tout à l'heure, en gros, il faut agir maintenant pour ne pas se faire imposer des standards par le reste du monde plus tard.
Parce que je me dis, je préfère interagir avec un robot européen plutôt qu'avec un robot chinois.
D'accord. cela crée aussi des opportunités, malgré tout, cette robotique.
Oui. D'abord, notre industrie est très performante. On espère que les robots industriels nouvelle génération, on aura des services plus, ce qu'on appelle customisés, donc plus individualisés, que ça va rapatrier de la production en Europe. Et puis, ça rend un robot peut faire des travaux dangereux, comme par exemple décontaminer une centrale nucléaire. Il peut rendre la vie plus facile pour beaucoup de personnes, mais ça change les professions. Ça va changer la manière de travailler. Parce que l'homme a toujours cherché des instruments pour avoir un travail, pour faciliter son travail. Il faut devenir plus intelligent. Mais ici, ça va très vite et ça prend des dimensions que moi, personnellement, je ne pouvais pas m'imaginer il y a quelques années.
Robots vont-ils nous voler notre emploi? Ça, c'est une question, a priori, un peu angoissante. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on va pouvoir imposer des redevances pour les propriétaires d'un robot et du coup générer des recettes fiscales et finalement les robots travailleraient et paieraient des impôts pour nous? Ça, c'est peut-être une opportunité. On poursuit notre discussion autour de la biotechnologie, de la robotique, de l'intelligence artificielle avec nos invités Maddy Delvaux, Emmanuel Foulon, Charles de Marcy, Jean-Sébastien Lefebvre. Bruxelles veut empêcher Terminator. À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, depuis le Parlement européen à Bruxelles.
Bruxelles veut empêcher Terminator. Maddy Delvaux est avec nous, eurodéputée socialiste luxembourgeoise. Elle travaille très activement sur la question. Charles de Marcy de la Fondation, Robert Schuman également avec nous. Jean-Sébastien Lefebvre de Context, Emmanuel Foulon, conseiller politique belge. Alors, vous me taquinez un petit peu sur le titre de cette émission. Bruxelles veut empêcher Terminator. Ah, oh, c'est encore une histoire de journaliste, BFM en plus. Mais on n'est pas loin de ça. Je rappelais cette citation du directeur de Tesla, Elon Musk, qui a priori est quand même un visionnaire. Hein. Elon Musk, il a dit « Nous sommes en train de créer un démon. La principale menace existentielle de l'homme, c'est ça. C'est l'intelligence artificielle. C'est la robotique. » Vous n'êtes pas d'accord avec ça, Maddy Delvaux ?
Le problème, c'est que je ne sais pas. J'écoute des gens très intelligents qui sont très alarmistes. J'écoute d'autres qui disent « Non, il ne faut pas exagérer, ça ne va pas se passer comme ça. » Et c'est pour ça que je me dis qu'il faut quand même ériger des principes éthiques. On ne doit pas laisser ce terrain aux ingénieurs et aux scientifiques.
Hein, je trouve ça assez réducteur, non pas de la part de la députée, mais de la part de la personne qui a fait la remarque. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est amoindrir aussi l'intelligence humaine. Je pense que déjà, de base, vu que nous sommes des êtres intelligents, c'est normal qu'on évolue. Et donc, on essaie de trouver des technologies qui vont nous faciliter la vie. Maintenant, je pense aussi que c'est cette même intelligence qui fera que si un jour cette technologie est dangereuse pour nous, on sera capable de la couper, de changer d'orientation. Et donc, ce qu'il dit finalement est insultant, même non pas pour les technologies, mais pour l'intelligence humaine.
Jean-Sébastien.
En fait, la réflexion, c'est un peu la même qu'on a eue dans les années 80-90, quand on a eu toutes les évolutions sur la manipulation génétique qu'on était capable de faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le législateur a dit ça, on peut pas faire. On peut pas manipuler du patrimoine génétique humain sur des embryons pour décider si l'homme sera blond, grand, petit, moyen. Donc, on a découvert une nouvelle technologie et on s'est fixé des limites. Et finalement, pour la robotique, c'est un peu la même chose. Il va falloir qu'on se fixe des limites par rapport à ce qu'on peut faire ou veut faire, jusqu'où on va. Et c'est ça normal, parce qu'en plus, ça va profondément révolutionner. On l'a évoqué un petit peu, il y a la question de l'emploi qui va se poser. Si les robots nous remplacent dans toute une série de tâches, est-ce qu'il y aura encore demain du travail pour tout le monde ? C'est finalement le problème qui après va se poser pour les citoyens.
Et on peut souligner aussi que, on dit souvent, enfin, on est ici quelquefois pour critiquer l'Europe et quelquefois pour mettre les choses en avant. Là, on peut mettre les choses positives en avant. L'Europe prend les choses en main, bien avant les autres, en tout cas avant les autres, en tout cas avant que ça n'arrive. Et je pense que c'est vraiment quelque chose à marquer.
Quand on voit Charles de Marcy, que Benoît Hamon, il a mis ça presque au cœur de sa campagne pour la présidentielle. Quand il parle du revenu universel, il dit qu'on pourrait le financer notamment grâce à l'imposition des robots. Parce que les robots, avec l'automatisation du travail, vont remplacer les travailleurs. Qu'est-ce que vous pensez de ça ?
Je pense qu'il précise pas sur la question de durée, donc oui. C'est facile de dire oui, on verra à l'avenir, donc je propose ça et on financera par ça, donc c'est assez hypothétique, peut-être que ce sera réaliste dans 10, 15 ou 20 ans. Et ce qui est vrai, c'est qu'avec le progrès technique, et ça a toujours été lié de tout temps, il y a des opportunités, il y a aussi des craintes. L'opportunité, ce serait peut-être qu'on puisse bénéficier de nouvelles sources de financement. La crainte, c'est que ça va faire aussi perdre des emplois, mais on va aussi probablement en gagner d'autres qui seront peut-être pas du même niveau, donc on va devoir s'adapter, et c'est vraiment le message, à mon avis, qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faudra s'adapter à cette nouvelle donne. Comment est-ce qu'on financera finalement notre ancien modèle social ? Est-ce qu'on pourra l'améliorer ? Est-ce qu'il faudra aussi l'adapter à cette nouvelle donne ? Et puis un principe qui est quand même assez essentiel, c'est quand même ces différentes limites. Oui, c'est au législateur de le faire, non pas pour s'adapter, mais pour anticiper ce qui pourra être fait et ce qui devra être fait. Et ça, c'est assez neuf, parce qu'en général, notamment au niveau européen, souvent on réagit, on a une crise et hop, on réagit, ah voilà ce qui aurait pu être fait. Et là, c'est un exemple, au contraire, on dit non, on va anticiper et on va regarder ce qui doit être fait d'ici 5, 10 ou 15 ans, parce que ça va plus que très vite.
Bon là, est-ce que vous êtes penché, Maddy Delvaux, sur la question de la fiscalité des robots ?
Honnêtement, pas beaucoup, mais on s'est beaucoup occupé de la question de l'emploi et on ne s'est pas retrouvé, puisque vous avez des études qui parlent de jusqu'à 80% des emplois qui vont disparaître. Il y a peu d'études qui nous disent combien d'emplois seront créés, parce qu'il y aura de nouveaux emplois. Pour une fois qu'on pourrait préparer l'avenir, on pourrait développer différents scénarios et dire, bon, si tout va bien, on n'a pas besoin de changer quelque chose à la fiscalité, mais au contraire, si le scénario du pire arrive, ce qui ne va pas arriver demain, mais peut-être dans, je sais pas, 10, 20 ans, et donc observer quels emplois sont occupés. On le voit déjà un peu avec les études, que ce sont surtout des emplois répétitifs qui sont pour le moment pris par les robots, mais que si vraiment il y a un sous-emploi énorme si les gens ne trouvent plus de travail, même s'ils cherchent activement et même si on arrive à les former au mieux. Mais dans ce cas-là, il faut réfléchir à la manière dont on va financer la sécurité sociale. Mais bon, l'impôt repose aussi sur le revenu du travail. Et donc, s'il n'y a plus de revenu du travail, bon, alors il faut réfléchir à d'autres sources. Ça me semble très simple comme raisonnement.
Il y a déjà des députés qui réfléchissent à l'éventualité de confier des tâches d'assistant parlementaire à des robots et de conserver l'enveloppe derrière.
Ou des hologrammes.
Non, mais si on se projette, je ne sais pas, à 100 ans, soyons encore un peu plus ambitieux.
50 suffit.
Même 50, on pourrait se dire qu'on aura des robots capables presque de tout faire, même de présenter cette émission. Donc, qu'est-ce qui restera pour les êtres humains? Donc, est-ce qu'on peut pas imaginer un monde où finalement chacun aura plus ou moins une sorte de robot qui lui sera affilié et qui travaillera pour lui? Moi, là, on peut, c'est de la science-fiction, mais autant se poser la question aujourd'hui. Certains économistes, il y a un siècle, disaient que en l'an 2000, on travaillerait plus qu'une dizaine d'heures par semaine tellement on produirait de richesses. On n'est pas encore rendu là. Mais
il y a 50 ans, beaucoup de gens nous auraient brûlés si on leur avait dit qu'on aurait tous un smartphone qu'on pourrait être sur Internet toute
bien
la journée.
Sûr, tout à fait. Donc c'est et puis c'est, faut pas oublier qu'on est dans des sociétés où la société repose encore sur la valeur travail. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille pas est moins considéré. Moi, quelqu'un qui est au chômage, c'est un problème. Pas que financier, mais aussi social. Donc c'est quasiment tout doit être repensé.
Emmanuel.
Et ne sous-estimons pas la capacité d'adaptation de l'être humain. Je prends la voiture comme exemple. Où il y a un siècle, c'était juste impensable que il y ait plus d'une voiture. Voilà, il y ait plus d'une voiture par personne. Maintenant, c'est absolument le cas. Avec des conséquences sur l'environnement et la pollution. Et ce qui se passe maintenant qu'on a tous plus ou moins une voiture, eh bien, c'est qu'on est en train d'inventer des voitures qui ne sont pas polluantes. Donc, au fur et à mesure que les problèmes arrivent, l'être humain a toujours cette capacité à s'adapter.
La question qu'on pose là-dedans, c'est Bruxelles, comment Bruxelles peut empêcher Terminator? Est-ce que ça fait vraiment partie des risques que les machines deviennent aussi, voire plus intelligentes que nous et qu'elles prennent le contrôle? Charles de Marcy, à votre avis?
Si c'est possible?
Oui.
Oui, bien sûr que c'est possible. Bien sûr que c'est possible. D'où l'intérêt de mettre des lignes rouges et d'avoir ce bouton, je ne sais plus comment vous l'appelez,
le bouton kill.
Le bouton kill.
Le bouton off.
Moi, ça m'amusait. Voilà, là, vous cherchez à dédramatiser, clairement.
J'allais dire, pour dédramatiser, ce serait plutôt le bouton off. Mais oui, à un moment, d'être capable juste de garder le contrôle.
Si c'est l'intelligence artificielle et qu'elle se développe plus que nous, par définition, oui, elle peut être plus intelligente que nous, et ça veut dire aussi qu'elle fera des choses que nous, on ne pourra pas comprendre. C'est ça, la conséquence.
Oui, mais ça, c'est un grand souci qu'on a et qu'on a formulé aussi, c'est comment est-ce que rendre compréhensible ce que fait un robot. Puisque, à la limite, on peut comprendre un algorithme si vous avez quelqu'un qui vous l'explique, mais maintenant, on a cette démarche de bottom-up, c'est-à-dire que l'ordinateur travaille avec énormément de données et puis on regarde ce qui se passe. Donc c'est peut-être une black box et ça, je trouve ça qu'on devrait absolument éviter d'avoir des black box et que personne ne puisse plus vous expliquer les actions d'un robot. Et donc là, c'est pour ça que, bon, entre experts, on discute, mais il y a de plus en plus quand même des spécialistes en éthique qui discutent ensemble avec des ingénieurs pour justement leur dire, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, il faut expliquer ce que vous faites et expliquer aussi dans une langue que les gens comprennent.
Donc la base de votre réflexion, là maintenant, si je vous écoute en tant que députée européenne qui travaille sur la question, c'est de mettre au cœur du système le principe de l'éthique. Faire en sorte que les producteurs, ceux qui vont développer des applications robotiques utiliser l'intelligence artificielle, ils intègrent totalement cette dimension éthique.
Oui, alors là, ça devient très compliqué parce qu'on discute qu'est-ce que c'est que l'éthique et quel principe éthique, mais bon, il me semble quand même qu'il y a quelques règles élémentaires.
Par exemple,
c'est
toujours bien de les rappeler.
Par exemple, là, on prend qu'un robot, il doit servir l'homme et qu'il ne peut pas nuire. On revient aux lois d'Asimov qui, en fait, ne sont pas faites pour les robots, mais pour ceux qui les programment.
Tout à fait.
Et puis, la transparence, qu'il doit pouvoir expliquer.
Donc, nuire à l'être humain, c'est quoi?
C'est interdit.
Non, mais d'accord.
Donc, la machine se met en off, parce qu'elle est encodée comme cela.
Si on lui donne un ordre de, par exemple, un ordre de tuer quelqu'un, la machine ne le fait pas.
Il y a alors des questions très compliquées où la machine doit vous servir et ne pas détourner son attention. Par exemple, si vous avez un ordinateur, un robot de soins avec une personne âgée, elle doit être polie avec cette personne et elle ne doit pas apprendre à être désagréable. Il faut pas, donc ces choses-là qui sont même élémentaires.
D'accord. Mais je vous rappelle, hein, donc non seulement de l'éthique et puis en plus elles doivent intégrer le livre des bonnes manières de Nadine.
C'est possible, oui.
Par exemple.
Sinon, il est infect,
Charles.
Café.
Charles de Marseille.
Il y avait un exemple qui m'avait marqué. C'était cette question sur les salles de marché où pouvait y avoir des machines qui pouvaient encoder comme ça et envoyer des ordres d'achat et de vente et qui avaient des volumes qui étaient impressionnants et que là on dépassait en fait complètement
le high frequency trading,
l'approche rationnelle, que ce soit un homme qui dise oui je vais acheter tant de kilos de riz de tel ou tel état, et là je crois que c'est l'éthique qui est au cœur de cette réflexion là et pas seulement la capacité à pouvoir faire. Bien on sûr. Pourra toujours faire plus et démultiplier, mais à un moment de dire non stop, il y a quelque chose où on doit avoir un être humain qui dit oui ça c'est faisable ou ça c'est pas faisable.
Oui, et puis je pense aussi que ceux qui programment et qui construisent les robots, ils doivent nous donner des garantie sur les protocoles, qu'ils ne se satisfassent pas d'un premier résultat, mais qu'il faut des phases de test pour démontrer qu'effectivement ça marche comme ils nous l'ont
promis.
Il
doit y avoir une transparence sur ces robots et sur leur programmation. Et pour
pas une transparence, je ne veux pas avoir des secrets industriels, mais ils doivent pouvoir nous assurer qu'ils ont suivi des protocoles sécurité, de fiabilité.
Donc les eurodéputés vont se saisir de cette question la semaine prochaine et voter à Strasbourg. Et en gros, ils votent sur quoi ?
Nous votons un rapport avec des recommandations. Bon, il y en a beaucoup. Il y a des choses plus précises, il y a des choses plus générales, que nous voulons des débats, ce qui est en train de se faire, ce qui est positif. Premier résultat positif.
C'est vraiment de lancer la réflexion.
De lancer la réflexion parce que ce ne sera pas la fin de l'histoire. Ce rapport va à la Commission européenne et la Commission européenne a 3 mois pour réagir, pour dire sur ce sujet nous allons proposer une régulation et puis sur ça on a encore de temps, il faut réfléchir. Donc c'est le début d'un débat.
Vous avez bon espoir que la Commission propose quelque chose ou vous avez déjà eu des retours de sa part ?
Oui, non, mais je sais que dans la Commission, plusieurs, la DG Connect mais aussi la DG Just sont en train de travailler sur des textes. J'ai bon espoir qu'on aura au moins une proposition en 2017.
Et il y a déjà un lobbying actif de la part de l'industrie sur la question ou pas encore ?
Ils sont très intéressés, mais il y a une certaine... Tout le monde.
Tout le monde, c'est-à-dire ?
Tout le monde. Moi, je pense que le lobbying se fait plutôt dans les États membres, parce que là, j'ai été assez ménagée.
Il n'y a pas eu de secteur que vous ont contacté ?
Je ne suis pas sous la pression. Non.
D'accord.
Pas de... Non. Non.
Non, mais une pression positive de légiférer.
Oui. Non, mais je pense aussi qu'il y a un intérêt pour l'industrie européenne d'avoir une certaine sécurité juridique pour savoir ce qu'ils peuvent lancer sur le marché et ce qu'ils ne peuvent pas.
Bien sûr. Non. En fait, vous êtes Sarah Connor, parce que...
Voilà.
Vous êtes Sarah Connor, c'est la personne qui, à la fin, parce que on parle de... Je reviens sur les titres de l'émission.
Elle gagne.
À la fin, de nouveau, c'est l'être humain qui... Qui réussit, qui va...
Sarah Connor est luxembourgeoise et socialiste, réincarnée en Maddy Delvaux, et elle est avec nous sur le plateau de 500 millions d'Européens, de même que Emmanuel Foulon, que Jean-Sébastien Lefebvre et que Charles de Marcy. Madame, messieurs, vous restez avec nous. Nous allons être rejoints par Éric Scholl, le patron de Courrier International, pour la revue de presse. À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus, Yann Anthony Noguès.
Merci de nous retrouver ici à Bruxelles pour cette deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens avec nos invités. Sarah Connor, eurodéputée, non, c'est l'héroïne de Terminator. Non, Maddy Delvaux, eurodéputée socialiste luxembourgeoise qui travaille sur la question de l'intelligence artificielle et de la robotique avec un rapport soumis au vote des eurodéputés la semaine prochaine à Strasbourg. En tout cas, c'est clairement une discussion passionnante qui s'annonce. Charles de Marcy, de la Fondation Robert Schumann, Jean-Sébastien Lefebvre de Contexte, Emmanuel Foulon,
Hasta
la vista, Emmanuel Foulon, conseiller politique du Parti Socialiste belge. Il est là, Éric Scholl, bonjour.
Bonjour Yann Anthony.
Vous allez bien ?
Oui, parfaitement.
Bon, le directeur de la rédaction de Courrier International pour votre revue de presse, faites-nous rêver.
On va aller en Espagne, on ira aussi en Italie. Un tour en Pologne sur un débat de fond qui concerne un ancien héros polonais, héros ou salaud, on verra. Et puis on ira aux Pays-Bas voir les écrans qui se passe dans les, sur les écrans aux Pays-Bas.
D'accord, écoutez, demandez le programme de 500 millions d'Européens avec nos invités et puis évidemment Éric Scholl, la revue de presse.
BFM Business, 500 millions d'Européens, la revue de presse.
Bon, en Espagne, on demande plus de transparence.
On demande plus de transparence et vous savez, on parle évidemment beaucoup du Penelope Gate. En réalité, la Vanguardia a plutôt choisi de rebaptiser cette affaire française de Fillon Gate. Et surtout, Vanguardia revient sur ce qui s'est passé en Espagne dans l'exercice de transparence et notamment l'adoption, alors ça date maintenant de décembre 2014, d'une loi sur la transparence, une loi qui a été élaborée par le gouvernement conservateur hein, et qui est rentrée en vigueur donc il y a maintenant pratiquement 2 ans. Alors, cette loi permet que maintenant soit publiée sur le même site internet à la fois des informations de base, hein, comme les salaires des hauts fonctionnaires, et puis aussi des détails sur les subventions publiques. Alors le journal s'interroge, est-ce que finalement la transparence est totale? Eh bien non, pas tout à fait, parce que justement il reste encore des zones d'ombre, et dans ces zones d'ombre, il y a notamment les détails concernant les assistants parlementaires, puisque les seuls chiffres dont on dispose en fait c'est d'un total complet, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a 7,5 millions d'euros qui sont distribués chaque année pour les assistants parlementaires. Le système est d'ailleurs un petit peu différent en Espagne et en France. Il n'y a pas un assistant par député, il y a un certain nombre d'assistants qui sont distribués en fait par parti. Et donc on compte au total 270 assistants pour 350 députés, mais on n'a pas le montant exact pour savoir combien sont payés en fait les assistants espagnols.
Jean-Sébastien Lefebvre.
Là, pour une fois, ce serait bien que les pays européens peut-être s'inspirent de ce qui est fait au Parlement européen. Alors, je dis pas que le système du Parlement européen est parfait, mais au Parlement européen, il y a déjà des assistants sont employés directement par le Parlement, donc ce qui fait que ce sont pas les députés qui gèrent l'enveloppe. Et en plus, on peut savoir qui est assistant de qui, puisqu'il suffit d'aller sur la fiche, le site internet de chaque député, sur sa fiche du Parlement européen, et on a la liste avec les mails, les contacts, on peut appeler le bureau. Donc c'est relativement transparent. Il y a quelques règles, on peut pas employer son mari, sa fille, membre direct de la famille, c'est pas possible. Donc
au Parlement européen, on peut pas employer son mari,
ni ses enfants.
Femme, ni ses enfants. En revanche, c'est un petit peu vaseux au niveau des règles par rapport au petit ami.
Non, ils ont changé. Alors effectivement,
ils ont changé en 2014,
je crois, les règles, parce qu'effectivement, en 2009, il y a eu des nouvelles règles qui ont été mises en place et qui ne prévoyaient pas le cas du compagnon petit ami ou compagnon non marital, on va dire. Et il y avait Marine Le Pen qui employait son compagnon, Louis Alliot.
Tout de suite.
Et en fait, ça a été...
Et elle avait dit que ce n'était pas une situation stable, parce que c'était juste son compagnon et qu'ils n'étaient ni paxés ni mariés. Et donc, a priori, il n'y avait pas de souci. Ils avaient contourné le règlement européen de cette mariée. Après, ils ont trouvé une solution beaucoup plus facile.
Ils ont fait élire Louis Alliot.
Voilà, Louis Alliot est devenu député européen, donc du coup.
Et le Parlement a changé sa règle interne. Du coup, maintenant, on ne peut plus employer même son compagnon non.
Ce qu'on appelle l'entourage immédiat.
L'entourage immédiat.
Et en plus, au Parlement européen, alors on n'est peut-être pas tout à fait blanc, mais en tout cas beaucoup plus loin dans la recherche d'une vraie crédibilité et d'une vraie éthique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Marine Le Pen doit rembourser les 300 000 euros. Par contre, je voudrais aussi insister, il y a un vrai clivage, selon moi, entre certains élus et l'opinion publique. Il y a une banalisation d'un côté de certains politiques qui trouvent ça normal, l'histoire des affaires, l'histoire de Fillon. Encore le maire de Saint-Cloud qui avait annoncé que, finalement, Penelope Gates, okay, elle a touché 3 600, mais c'est quand même moins qu'un pilote de ligne, je cite. Et ça ne crédibilise absolument pas la classe politique, comme ce qui se passe en Roumanie aussi, qui décrédibilise la classe politique. Et en face de ça, on a une hystérie médiatique. Alors je pense qu'il faudrait vraiment trouver le moyen terme et que certains politiques se remettent en question, ne soient pas en tel décalage par rapport à l'opinion publique et à l'éthique de manière générale.
Voilà, en Roumanie, où ils ont voulu revenir sur un décret, enfin alléger la politique anti-corruption. Madi Delvaux, quand on regarde par exemple en Suède, c'est pour ça que je voulais vous demander la question par rapport au Luxembourg. En Suède, n'importe quel citoyen peut appeler ou envoyer un email aux impôts et avoir toutes les informations sur le salaire des patrons, les déclarations fiscales de n'importe quel ministre. C'est la transparence la plus totale. C'est pour ça que, par exemple, il y a quelques années, il y avait même une ministre, la numéro 2 du gouvernement, qui avait dû démissionner parce qu'elle avait acheté une barre chocolatée du Toblerone avec sa carte de crédit du ministère. Oui. Moi, on va un peu trop loin.
Moi, je pense qu'il faut trouver quand même un certain équilibre entre la protection d'une sphère privée et la transparence. Je pense que par le passé, on a péché par pas assez de transparence. Ce qui explique d'ailleurs le comportement de certains hommes politiques en France. Mmh. Ils trouvaient ça normal et ça ne choquait personne. Mais de là à faire la chasse à chaque achat que vous faites avec une carte de crédit, et je trouve que il faut trouver le juste milieu. Bon, moi, je dois dire que je suis fatiguée de lire chaque jour un autre scandale sur un membre de la famille qui est encore employé.
D'accord, mais le problème pour vous, il vient de la presse qui fait ses choux gras là-dessus, ou c'est parce qu'il y a tellement de scandales
que je dois dire que je me fâche parce que tous ceux qui s'efforcent d'être transparents, honnêtes, on met tout le monde dans le même panier et moi je me dis je ne veux pas m'identifier avec des hommes et femmes politiques qui ont ces comportements et il m'arrive qu'on m'accoste et qu'on me dise tous les politiques ils essaient de ramasser de l'argent, ça m'agace prodigieusement.
J'ai une exigence d'honnêteté.
Je trouve qu'on ne devrait pas se comporter comme ça quand on est une personnalité politique.
Toujours le Penelope Gate et toujours la presse, le canard enchaîné, honneur de la presse française en Italie.
Oui, alors que la presse française est quand même fait l'objet de beaucoup de critiques en ce moment. Eh bien, alors le quotidien italien Libero salue, alors vraiment d'une façon avec un article très louangeur le canard enchaîné, en nous expliquant qu'il confirme sa réputation. C'est un bijou du journalisme d'investigation, nous dit le journaliste italien, le canard enchaîné, qui nous explique qu'il depuis 100 ans s'emploie à gâcher la fête des puissants de France, ne faillit jamais à sa réputation. Le journal italien passe en revue tout le tableau de chasse du canard enchaîné, de Chaban-Delmas, un ex-secrétaire général de la CGT, c'était il y a pas très longtemps, Thierry Le Pen, en passant évidemment par Chirac, Sarkozy, Juppé et Giscard. Et comme nous dit le journal italien, les uns y ont laissé leur réputation, les autres leur chance de remporter une élection. Et il conclut, le canard enchaîné est inimitable.
Inimitable, comme Emmanuel Foulon.
Écoutez, je ne sais pas, j'espère, si ce n'est que je suis plus ou moins d'accord avec ça. C'est-à-dire que le canard chaîné se nourrit aussi beaucoup de rumeurs et se nourrit de dénonciations.
Ah oui, du camp d'en face.
Donc oui, alors de nouveau, je ne vais sûrement pas. Moi, je trouve ça bien qu'il y ait des gens qui dénoncent tant que les faits sont avérés. Et ça, c'est le travail du journaliste du Canard Enchaîné. Et ça, il a très bien fait. Mais il y a aussi beaucoup de journalistes à côté. On a vu Envoyé Spécial, on a vu Le Parisien encore avant-hier, qui font aussi du travail d'investigation à côté, sans dénonciation. Et donc, je pense que les deux sont intéressants.
Jean-Sébastien.
Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que le Canard Enchaîné là, regagne une lettre de noblesse qu'il avait aussi un peu perdue ces derniers temps, parce que c'était Mediapart qui faisait les révélations ces 2-3 dernières années, Cahuzac, des choses comme ça. Et donc là, on va dire, c'est le Canard Enchaîné revient au devant avec l'affaire Fillon.
Charles,
c'est notre lanceur d'alerte national, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il le fait depuis plusieurs décennies et que ça ne modifie pas les comportements des élus. Oui. Qui ont des comportements déviants. C'est ça qui est très étonnant. C'est qu'ils savent que ça peut sortir, balancé par le camp d'en face, et pourtant les comportements continuent.
Et il y a peut-être
maintenant, je pense que c'est fini.
Oui,
là, c'est... Définitivement.
Jusqu'à la prochaine fois.
Oui, c'est ce que j'ai envie de dire, parce que le nombre de fois qu'on nous a dit que c'était fini, il y a peut-être aussi une vraie réflexion.
Surtout que là, on sort des casseroles qui datent un petit peu. Donc c'est pour ça que ce sera assez sans fin.
J'ai hélas bien l'impression, parce que l'être humain a quelquefois du mal à se remettre en question. Mais il y a une vraie question de fond, c'est de savoir aussi, Mediapart et le Canard Enchaîné, qui sont toutes les deux une presse totalement indépendante en France. Mmh. Alors c'est peut-être pour ça aussi que ces presses-là sortent en premier.
Lech Walesa, en Pologne, a-t-il collaboré avec la police secrète communiste ?
C'est une question qui n'est pas tout à fait nouvelle en Pologne, mais alors qui vient justement, qui vient de rejaillir depuis tout début du mois de février. Elle est rejaillie parce que un institut, qui est l'Institut de la mémoire nationale, à nouveau accusé, au fond, Lech Walesa, d'avoir en fait collaboré effectivement avec le pouvoir communiste, c'était dans les années 70. Alors, le journal Wyborska a décidé de prendre fait et cause pour Lech Walesa en expliquant que c'est un héros. Pour vous, c'est juste Bolek, nous dit le journal. Bolek, c'était le pseudonyme à l'époque de Walesa. Pour nous, c'est un héros. Et il fait un éditorial qui est intitulé « Ils veulent détruire Walesa ». Et le journal accuse en fait le gouvernement de vouloir le juger, le priver de toute sa dignité. Surtout, ce quotidien d'opposition, il voit une chasse aux sorcières à mener par le parti ultra-conservateur Droit et Justice. Donc peut-être une sorte de manipulation politique. En tout cas, c'est l'avis du quotidien Wyborska.
Jean-Sébastien Lefebvre.
Ah, je rejoins un peu ce que dit Yves Borchat. C'est, en fait, ce qui est en train de se passer en Pologne, c'est que le gouvernement ultra-conservateur qui est au pouvoir veut casser l'image de Wałęsa pour la remplacer par autre chose. Sachant que pourtant Kaczynski, qui est le patron du parti au pouvoir, mais qui dirige plus ou moins le pays, était avec Wałęsa dans Solidarność contre les communistes. Mais leur idée, c'est, en décrédibilisant Wałęsa, en disant il a collaboré avec la police politique, ce qui est avéré depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'on sait qu'au début des années 70, Wałęsa avait été emprisonné après des manifestations à Gdansk, et on lui a fait signer des papiers comme quoi il devait s'engager. Il a toujours dit, c'est su, mais là, en voulant détruire son image, en chargeant la barque, l'idée c'est de dire, voilà, la Pologne d'après 89, la Pologne post-communiste, en fait, était issue des communistes eux-mêmes, qui l'avaient préparée. Nous, pouvoir ultra-conservateur, on va vous créer une vraie Pologne post-communiste avec les valeurs ultra-traditionnelles de la Pologne, etc. On n'aime pas les Russes, on n'aime pas les Allemands et on est catholiques. Et donc du coup, c'est une reconstruction historique qu'ils sont en train d'essayer de faire. Et Wałęsa, il est toujours vivant, il critique régulièrement le gouvernement, il est toujours très écouté par les Polonais. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'atteindre ? Eh ben, il faut dire qu'en fait, c'est juste un communiste. Et donc là, on a une réflexion d'histoire.
Vous dites comment ? Vous dites pas Wałęsa, vous dites
Wałęsa.
Wałęsa.
C'est un L barré, en fait. C'est une lettre polonaise.
Donc, Wałęsa.
C'est Lech. Lech. L-E-C-H. Le C-H, c'est R. Et Lech Wałęsa.
D'accord. Donc, quand je dis Lech Wałęsa, moi, je passe par
à la française. Oui, d'accord. Pour un français.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je peux rien ajouter de plus averti que ce que Jean-Sébastien vient de dire. Donc.
Bon. Emmanuel.
Je passe la main.
D'accord. Maddy Delvaux.
C'est impressionnant. Non, mais c'est impressionnant. Une très bonne analyse.
Bon, bah, bravo pour cette analyse. Direction les Pays-Bas. La prochaine fois, on donnera la parole à Jean-Sébastien. C'est Lefebvre en dernier, peut-être. Direction les Pays-Bas, où on parle d'une série. Tiens, Éric Scholl.
Oui, une série que les Néerlandais peuvent voir depuis maintenant le 20 janvier. Une série en 10 épisodes, et son nom, c'est Bruxelles. Alors, en fait, c'est quoi ? Eh bien, des décors, ce sont les couloirs des institutions de l'Union européenne, c'est ce que nous raconte le quotidien néerlandais NRC, les personnages, des hommes d'un certain âge en costume gris. Le journal nous dit, mais ça doit être ennuyeux, non ? Et en fait, pas du tout, parce que cette série, qui est signée par le réalisateur Arnaud Dirix, dépasse les clichés, nous dit le journal, qui présente Bruxelles comme une ville bureaucrate. Et non, c'est pas du tout ça, c'est Bruxelles est plutôt présentée comme une fosse au serpent, où il faut manger pour ne pas être mangé. Alors, personne dans cette série n'est incorruptible, même le président de la Commission européenne et son bras droit, dans la série surnommée Jean-Marie et Peter, vous mettrez les vrais noms si vous voulez, sont vils et corrompus. Tromperie, orgueil, adultère, tout ça sur fond de politique aussi, de sujets sérieux comme les réfugiés, comme l'Ukraine. On est dans les couloirs de la Commission européenne et ça se passe sur les écrans. Donc Pays-Bas, alors c'est pas des Pays-Bas, c'est pas ouvert à tout le monde, c'est réservé aux abonnés de l'opérateur de télécom KPN.
Jean-Marie, il est pas corrompu, Maddy Delvaux. Jean-Marie, non. Le président de la Commission européenne. Vous qui êtes une socialiste luxembourgeoise.
Cela confirme ce que j'ai dit, qu'on fait un amalgame entre tout le monde et puis on fait passer des messages comme quoi il n'y a plus d'honnêtes personnes qui sont dans les institutions.
Est-ce que vous pensez que si on faisait, là en gros c'est le House of Cards européen, est-ce que vous pensez que si on faisait un à la Maison Blanche européen qui dépeindrait vraiment la façon de légiférer à Bruxelles, la façon de créer du compromis, du consensus, est-ce que vous pensez que ça pourrait marcher ? Parce que finalement, les 500 millions d'Européens sont assez coupés de la réalité bruxelloise. Ils ne se rendent pas compte du fonctionnement de la machine, mais qui est passionnant une fois qu'on la découvre.
Ah ben, c'est passionnant ce qui se passe. Hein, quand on doit chercher
mettre tout le monde d'accord autour de la table.
À trouver un consensus.
Mais est-ce que c'est télégénique ?
Parfois, oui.
Mais ça peut l'être, Emmanuel Fellon.
Un exemple. Écoutez, c'est clairement télégénique. Il faut pas que les gens pensent qu'ici, c'est vraiment le centre du dédémonisme absolu. Mais c'est pas non plus la petite maison dans la prairie. Il y a des débats, il y a des guerres, il y a de la passion, il y a du pouvoir. Donc fatalement, il y a des très bonnes choses qui se passent avec des gens très progressistes. Il y a des choses nettement moins bien qui se passent. On en parle quelquefois, d'ailleurs, toutes les semaines dans nos émissions, où on dépeint les bons et les mauvais aspects. Mais avec tout ça, évidemment, il y a de quoi faire aux Softcards. Avec des bons et des mauvais aspects.
Il faut un bon scénariste.
Charles de Marcy.
non seulement vous pouvez faire House of Cards, mais vous pouvez faire avec 28 déclinaisons nationales. Parce que vous avez aussi cette association de culture incroyable, ce plurilinguisme ou ce unilinguisme pour penser à Jean qui n'est pas là aujourd'hui. Mais on a un système qui est exceptionnel. Il faut aller dans les capitales, il faut rester ici à Bruxelles, il faut aller à la Commission. Vous avez une technostructure, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus politique ici. Vous avez de la droite, de la gauche, des verbes. Vous avez tout ce que vous voulez. Donc oui, moi je trouve que c'est très télégénique.
Jean-Sébastien Lefebvre, qu'en pensez-vous ?
Et des think tanks.
La seule difficulté, c'est qu'il n'y a pas de... Mais on voit la même chose que quand on écrit nos articles. C'est-à-dire que en France, on fait une série politique, l'Assemblée nationale, tout le monde voit ce que c'est, le Sénat, tout le monde voit ce que c'est. La seule difficulté qu'il y a avec Bruxelles, c'est qu'il faut quand même arriver à faire comprendre assez rapidement qu'est-ce que le Parlement, le Conseil des ministres, le Conseil européen ou autre. Mais ça se fait. Mais en même temps, ça peut être aussi un moyen d'inculquer, on va dire, un minimum, une référence politique commune aux Européens via une série ou quoi que ce soit.
Et une démarche pédagogique finalement.
Voilà. Bon, bah peut-être qu'il faudrait créer une sorte de West Wing à la Maison Blanche européen. Tiens, on va travailler sur la question. Pourquoi pas, tiens. Merci Maddy Delvaux, eurodéputée socialiste luxembourgeoise. Vous travaillez sur la question de la robotique, un cadre législatif pour tout ce qui est intelligence artificielle et robotique. C'est voté la semaine prochaine à Strasbourg. Merci d'avoir été parmi nous, ainsi que Charles de Marcilly de la Fondation Robert Schuman, Jean-Sébastien Lefebvre de Context, Emmanuel Foulon du Parti Socialiste belge.
Qui passait par là.
Conseiller avec brio qui passait par là et qui est, ma foi, fort sympathique. Merci à Eric Scholl pour votre revue de presse. Merci à Alexandre Rougier et Hélène Leroux qui nous ont aidés à préparer cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Même jour, même heure, avec de plus en plus de diffusion, de rediffusion en télé, en radio. Ça ne s'arrête plus. À la semaine prochaine.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs.